Bienvenue sur Aligre FM 93.1. Je suis Cad, l'homme du 92. Vous écoutez Championne, l'émission sur le sport féminin. Tout d'abord, ce soir, nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de la discipline, Cocorico. Il s'agit d'Amélie Mauresmo. Nous parlerons également du tennis en général, plus particulièrement le féminin. Et enfin, nous parlerons de la légitimité des femmes dans ce sport. Est-ce qu'il y a vraiment une parité? Alors, pour m'accompagner, bien sûr, je ne serai pas tout seul. J'ai la motarde la plus rapide de l'Ouest. Élodie, ça va ce soir?
Ça va super, comme d'habitude. Ravie d'être là.
Prête à parler de la balle jaune?
La balle jaune, oui.
Comme on dit dans le métier. Raquette et tout. Excellent. Merci à la régie.
La terre battue.
Ouais. Vous écoutez Championne, nous sommes sur Aligre FM 93.1. À dans quelques instants. Alors, bonsoir, auditrices, auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons donc parler de la petite balle jaune. Faisons un petit focus sur ce sport, évidemment, à parler de tennis. Alors, première question, évidemment, à mon invité, Elodie. Est-ce que tu as déjà fait du tennis?
Jamais.
Jamais?
Jamais. Non, c'est vrai que c'est un sport que j'ai jamais pratiqué, même en loisir ou comme ça pour rigoler. Non, je n'ai jamais tenu une raquette de tennis dans mes mains.
Même pas du paddle ou du ping-pong?
Même
ou...
pas. Ping-pong, si, à l'école.
Ah, ok.
J'avais du ping-pong à l'école, mais c'est tout. Alors, vraiment, c'est...
Et le badminton? J'essaye d'avoir un accent anglais, vous remarquerez.
Pareil, à l'école. À l'école, j'en ai fait. Ouais.
Ok.
Ouais, on avait des sessions, c'était sympa.
C'est pas un sport qui t'attire plus que ça à pratiquer ou à regarder, peut-être?
À regarder, honnêtement, je regarde très peu, parce que ouais. Je trouve ça très long. Honnêtement.
C'est vrai que les échanges...
les échanges durent des heures. Ouais. Mais je trouve que c'est fascinant comme sport, parce que c'est extrêmement complet. Il faut un cardio de malade. Ouais. On s'en rend pas compte, mais vraiment, quand je les regarde, ça court pendant des heures non-stop. Donc voilà, je trouve ça cool comme sport, mais...
Ouais, pareil, je regarde de temps en temps. Bon, après, en vrai, je regarde surtout Roland-Garros parce que c'est sur nos horaires. Après, parfois, Wimbledon. Dédicace à Yannick Noah qui nous écoute, des bisous. Et évidemment, ouais, moi, pareil, le tennis, j'en ai fait effectivement quand j'étais petit. Et ironiquement, je préfère pratiquer, même ça fait des décennies que j'en ai pas fait, mais je préférais pratiquer du tennis que du foot. Parce que le tennis, quand tu fais une erreur, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mm. Et donc, du coup, je préférais ce côté-là. En fait, il n'y a que toi. Tu vois, tu peux pas dire l'autre, il a été un peu moins rapide, un peu moins fort, un peu moins bon. C'est vraiment toi et seulement toi, quoi.
Ouais.
Et je trouvais ça vraiment, vraiment top. En sport individuel, c'est mon sport préféré à pratiquer, clairement. Donc, parlons de tennis. Alors, le tennis, effectivement, c'est un des sports les plus pratiqués en France. Et première question, parce que ce soir, on va essayer d'être interactif. Vous pouvez jouer chez vous, hein, c'est le but, il n'y a aucun problème. D'après toi, sur le top 3 des sports pratiqués en France, le tennis arrive combien? Déjà, je t'aide, hein, je dis top 3, tu vois.
je dirais un petit 2, un bon 2 quand même, deuxième.
Ah, c'est une bonne réponse. J'espère que vous avez trouvé aussi. En numéro 1, le foot.
Ouais, je m'en doutais, ouais. C'est pour ça que j'ai dit 2. Ouais,
le football. Et en numéro 2, le tennis. Et en numéro 3, l'équitation.
Ah ouais, ah, ouais. J'aurais pas dit.
Moi non plus. Je serais parti sur le judo, l'escrime.
Ouais, basket, moi j'aurais dit. Parce qu'il y a quand même pas mal de clubs ou de la boxe, mais vraiment,
ouais,
j'aurais pas dit
aussi,
équitation.
Bon,
tu vois.
Non, non, c'est ça le véritable top 3, ce qui est assez, assez déconcertant. Mais du coup, ça coûte combien pour devenir une tenniswoman ou un tennisman, hein? L'idée, ça va être un petit peu, on va en parler dans quelques instants, vous donner des chiffres. Quelle est la différence de rémunération, entre les hommes et les femmes? Quels sont les tournois majeurs à suivre? Voilà, alors déjà pour pratiquer le tennis, il faut savoir que c'est un investissement.
Oui, on a tendance à le sous-estimer, on se dit ouais, il faut une raquette et des balles, mais non.
Non,
c'est pas que ça.
Si, le week-end, oui.
Oui, au week-end ou en loisir.
Voilà, tu trouves un terrain municipal ou un terrain dans une université, une raquette, des petites balles, ok, ça passe. Maintenant, si tu veux jouer à un vrai niveau, ça commence un petit peu à douiller. Donc, déjà, il y a la licence de la Fédération française de tennis qui est entre 20 et 50 euros à l'année. Mais ça, c'est par le prix diffère, pardon, par rapport à l'âge et par rapport au club. Mais qu'est-ce qu'une licence, Élodie?
Une licence, c'est très simple. En gros, c'est un peu comme un permis de pratiquer le sport. C'est délivré du coup par les fédérations, toutes fédérations. Donc là, en l'occurrence, les fédérations de tennis françaises. Et en gros, c'est vraiment un permis, un passeport pour pouvoir participer aux grandes compétitions, avoir vraiment un accès aux compétitions de la fédération.
C'est exactement ça. Donc vous avez des fédérations pour jouer au foot, pour jouer, faire de l'équitation, du judo. Généralement, elles sont sur un an. Elles vous permettent de jouer dans un organisme professionnel, dans un environnement professionnel, c'est-à-dire vous adhérez à un club. Et vous pouvez donc participer aux tournois aussi, aux compétitions. Et vous avez accès aux entraînements et à toute l'infrastructure que le club peut proposer. C'est pour ça que le prix de la licence peut varier selon les infrastructures ou, on va dire, la réputation du club. Vous allez avoir un prix plus ou moins élevé, en fait. Tout simplement.
Je crois même que les plus chères, enfin les licences les plus chères en professionnel, c'est la Formule 1 qui peut monter à plusieurs millions.
Ouais, non, mais je suis
pas
étonné.
Parce que là, c'est des comme tu disais, il y a les infrastructures qui coûtent une fortune.
Juste la voiture déjà.
Donc ouais, les licences de pilote sont très très chères. C'est les plus chères, honnêtement.
Et donc, vous pouvez en amateur, sans aucun doute, trouver un club de tennis ou du sport que vous préférez et vous inscrire en club et avoir une licence pour pratiquer. Il y a aucun souci. Vous pouvez chercher près de chez vous.
Oui, il y en a un petit peu partout.
Ouais. Après, pour le tennis, il y a des cours individuels. Le prix varie. Hein, je vais pas faire le jeu parce que. Ah si, allez. D'après toi, combien à l'heure pour avoir un coach particulier?
Oula. Je sais pas, je dirais une vingtaine d'euros en moyenne.
Alors, ça commence à peu près à 50 euros l'heure.
Ok.
Déjà pour avoir. Alors, c'est souvent des anciens professionnels ou des anciennes personnes du circuit qui se reconvertissent en prof de tennis. C'est assez courant, en fait, dans le truc. Et selon le niveau du prof, en fait, ça varie.
Le palmarès.
Et si tu veux un prof excellent, eh ben prépare-toi, c'est 5000 euros l'heure. Du coup.
Oui, il me semble que c'est si je dis pas de bêtises, c'est le coach qui a coaché les sœurs Williams, l'une des sœurs Williams qui a ce tarif-là.
Ouais, 5000 euros l'heure.
J'ai vu un reportage sur lui, c'est exceptionnel.
C'est fou. Ensuite, il y a effectivement l'Académie de tennis, le Pôle France, tout ça. Donc ça, pour y adhérer, c'est de 10 000 à 50 000 euros par an pour une formation complète avec entraînement, scolarité, hébergement. Donc là, on sort du cours individuel précédent qui va de 50 à 5 000. On parle vraiment d'une structure pour t'apprendre à jouer au tennis. Et on va le voir avec Amélie Mauresmo, elle a commencé le tennis, elle avait 4 ans. Donc elle a intégré ce genre de structure. Bon, pour l'équipement, c'est minimum 500 à 1000 euros par an pour les raquettes, le short, les chaussures, les balles. Donc, devenir une joueuse ou un joueur professionnel, ça demande déjà des ressources financières importantes. Mmh. Et effectivement, ça peut limiter l'accès à certains jeunes talents issus de milieux modestes. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut trouver des aides, des subventions, des mécènes aussi. Hein.
Il y a des programmes. Des bourses.
Exactement, pour pouvoir en faire. Donc, accrochez-vous à vos rêves, je ne sais pas faire. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre au tennis. Donc, sauf si vous suivez de manière assidue et que vous avez des informations sur ce sport, le grand public n'est pas forcément au courant que les jeunes joueurs et joueuses qui débutent, les 13, 15, 16, jusqu'à une vingtaine d'années, voire même parfois en dessous de 25 ans, quand ils doivent participer à un tournoi, ils doivent être invités. C'est ce qu'on appelle une wild card. C'est-à-dire, par exemple, il y a le tournoi de Rome, vous êtes un jeune, espoir, vous avez 16 ans, on vous donne l'invitation. Mais ce que le grand public ne sait pas, c'est que ça s'arrête là, c'est à vous de payer le voyage. Donc de partir, si vous êtes mineur, avec votre papa ou votre coach, c'est à vous de payer l'hôtel, c'est à vous de payer la bouffe sur place. En fait, on vous offre que l'entrée au tournoi, point. Et en fait, c'est là où ça devient très très coûteux. Parce que faire des Paris-Prague, des Paris-Melbourne, des Paris-New York, des Paris-Miami, parce qu'il y a des tournois un peu partout sur la planète, ça revient déjà très cher. Sachant qu'en plus, si vous n'avez pas la wildcard, il y a certains tournois où l'entrée elle peut être payante. Alors c'est pas du tout le cas des tournois du Grand Chelem dont on va parler, évidemment. Et on peut le dire tout de suite, quels sont les tournois du Grand Chelem?
Alors, on a l'Open d'Australie.
Ouais.
L'US Open.
Ouais.
Roland-Garros.
Cocorico.
Wimbledon.
Yes, c'est bon, t'as les quatre.
Yes, c'est bon, nickel.
Donc les tournois du Grand Chelem ont tellement des cash prizes, donc l'argent que peuvent gagner les joueurs qui sont invités ou qui sont qualifiés est tellement gros qu'en fait, pour y accéder, il n'y a pas de droit d'inscription. Mm-hmm. Mais sur d'autres tournois, ça peut arriver. Donc il faut prendre en compte que tout ça, ça coûte des sous. Par exemple, pour une joueuse junior, avant de finir et de rentrer dans le circuit WTA, c'est-à-dire Women Tennis Association, qui est l'équivalent de l'ATP, ce que vous entendez souvent quand on parle de tennis, qui est l'Association of Tennis Professional, pour les garçons, faut savoir que ça peut taper dans les 100 à 300 000 euros 10 ans de carrière à sortir. Et parfois, on n'est même pas sûr de rentrer dans ses frais. Et c'est ça qui est très très difficile mentalement pour les joueuses. D'ailleurs, il y a une très belle interview de Marion Bartoli sur Spotify avec Zach Nani, où elle en parle, où elle dit qu'elle partait avec son père à Melbourne, à droite à gauche, qu'en fait, au bout d'un moment, les parents sont obligés d'investir en fait, sur leurs enfants pour qu'ils puissent vivre de leur passion. Et c'est mentalement extrêmement dur. Voilà, t'as 17 ans, tu sais que tu vas faire un tournoi.
Tu vois tes parents s'endetter pour toi, enfin, ça fout une grosse pression en plus du sport.
C'est ça, en plus elle, c'est son père qui l'accompagne partout, donc tu peux pas emmener toute ta famille non plus. Et puis quand tu vas gagner ton match, en fait, à chaque tour que tu passes, c'est « je viens de rembourser les sandwichs à midi ». Je viens ouais, de rembourser l'hôtel.
Ça, hein. C'est un peu ça, ouais.
C'est assez dingo. Et c'est vraiment très, très dur, on le médiatise peu, de rentrer dans ce cercle. C'est pas juste que ça coûte cher, c'est que le vivre, c'est mentalement extrêmement difficile, en fait. Donc voilà. Donc techniquement, à partir de 2014, j'ai trouvé des chiffres. Il faut au moins 50K minimum pour financer une saison et pouvoir aller dans des tournois qui vont te rapporter assez d'argent pour rembourser la somme. Donc si par malheur tu te blesses, voilà. Si en plus tu trouves meilleur que toi, c'est très très compliqué. Par contre, quand tu vas dans un grand chelem comme Roland-Garros, faut savoir que le cash prize de l'élimination au premier tour, c'est-à-dire pas les trois qualifs, parce qu'en gros, à Roland-Garros, pour que je vous explique, en fait, vous avez accès aux qualifications. Et ensuite, vous avez les premiers tours qui sont diffusés à la télé, etc. Quand vous faites éliminer au premier tour de qualification, vous recevez 20 000 euros à peu près. Donc ça veut dire quand même, voilà, vous avez fait le voyage, mais ça va s'amortir si vous participez à ce tournoi-là. Et si vous êtes éliminé du premier tour de Roland-Garros tout court, qui n'est pas les qualifs, c'est 73 000 euros de cash prize. Pour les vainqueurs, filles ou garçons, on parle de 2,4 millions. Donc en fait, il y a énormément d'argent, sauf qu'il est donné qu'au haut du panier, en fait. Et c'est ça qui est assez cruel dans ce sport. Alors, comme on l'a dit, tu me rappelles les quatre tournois du Grand Chelem ?
Bien sûr, nous avons l'US Open.
Alors, l'US Open qui a lieu août-septembre à New York.
On a Wimbledon.
Qui a lieu à Londres, sur gazon, en juillet.
Roland-Garros,
bien sûr. En mai-juin, bien sûr, à Paris, sur de la terre battue.
Et bien sûr, l'Open d'Australie.
Exactement, en janvier à Melbourne, sur terrain dur. Il existe aussi ce qu'on appelle les Master 1000. Donc en fait, c'est des tournois un peu moins cotés, qui ne sont pas les tournois du Grand Chelem, mais qui sont dans le circuit. Il y en a à peu près 9 pour les garçons, notamment le tournoi qui était à Bercy, les Master 1000 de Bercy. Mm-hmm. Vous avez déjà dû voir des affiches là-dessus. Ouais. Maintenant, ça va être à la Défense Arena, à partir de cette année, en 2025. Et derrière, vous avez le tournoi de Rome, Monte Carlo, etc. Chez les filles, il y en a un de plus. Il y en a 10 sur les Masters, mais il n'existe pas le tournoi qui est dans la région parisienne, donc ni Bercy ni la Défense Arena. Mais par contre, on retrouve Rome, Madrid. J'ai vu qu'il y a Dubaï, le Qatar, la Chine. Donc, faire le Grand Chelem, qu'est-ce que c'est ? Faire le Grand Chelem, c'est gagner ces 4 tournois la même année, ou en 2 saisons, ça peut être collé. Par exemple, comme on a janvier, on peut gagner en fin d'année, par exemple, notre ami l'US Open en septembre, et gagner l'Open d'Australie en janvier. Donc on va dire, ça peut passer. Alors, d'après vous, ma chère Elodie, vous pouvez jouer
sur la même saison, donc.
Voilà, sur la même saison, c'est l'idée. Alors, vous pouvez jouer aussi chez vous. D'après vous, combien de femmes ont gagné le Grand Chelem ? Bon, je vous rassure, elles sont vraiment pas beaucoup.
Non, elles sont pas beaucoup. Je dirais. Je dirais 5.
Un peu moins.
Ouais, j'aurais dit vraiment 5 maximum. Je crois qu'elles sont 3.
Bien vu. Ouais. Donc, on a Margaret Court en 1970, Steffi Graf. Ça, j'ai connu, moi, ok, d'accord, en 1988, et Serena Williams en 2015, sur évidemment en 2 saisons, effectivement, tu vois, à cheval, le Serena Slam. Donc Serena Williams est aussi connue parce qu'elle a fait le Grand Chelem. Il y a très peu de femmes. Pour les hommes, ils sont 5 seulement, et pas plus, dont notamment Djokovic, qui est le boss intersidéral de tous les records, clairement, Djoko.
On a... Si tu nous entends.
Ouais, mais il nous écoute, évidemment. If you're listening, my friend Djokovic, like you. On a aussi évidemment Nadal, Björn Borg, Matt Wilander et Jim Courier. Alors ça vous parle un peu moins, j'imagine. Et en 2 saisons, comme Serena Williams, tu as Pete Sampras et Federer. Donc en fait, sur le Grand Chelem, il y a très peu. Comme on a dit, hein, le circuit il est blindé de joueurs, mais au final, il y en a très peu qui arrivent à un niveau pareil, en fait. Et au niveau des rémunérations, malgré l'égalité des prix en Grand Chelem depuis 2007, c'est-à-dire que depuis 2007, les joueuses féminines et les joueurs masculins sont exactement payés au même prix quand ils gagnent, en simple, eh bien, Novak Djokovic, pardon, il a gagné plus que l'ensemble de tout le top 10 féminin réuni en 2023.
Yes.
Parce qu'en fait, le truc, c'est que Roland-Garros, Wimbledon, tout ça, ils donnent le même price, mm-hmm. Okay, mais quand vous allez à Rome, à Madrid, à Prague ou à Miami, pas forcément. Et il y a plein d'autres petits tournois qui ne sont pas dans les Masters, qui ne vont pas forcément rémunérer de la même manière, en fait. Et donc là, vous avez vraiment un gros gap entre les garçons et les filles.
C'est là que la parité, on va dire, prend fin.
Ouais, c'est ça. Sur le Grand Chelem, il n'y a pas de souci. Depuis 2007, ça fait quand même 18 ans mm-hmm. que tu as quand même une... Alors, attends. Bon, j'avais 18. Ouais, c'est la régie que j'adore. On a effectivement les dotations sont plus élevées sur les grands chelems. Bah, alors tiens, allez, pour faire simple, d'après toi, quel est le tournoi qui rémunère le plus entre les quatre?
Je dirais l'US Open.
Bien vu, US
ouais,
Open
avec. Je me suis dit, États-Unis, ça doit payer ça.
Ça paye fort. C'est 3,6 millions de dollars.
Dollars.
Voilà. Yeah. En deux, on a Wimbledon avec 2,7.
Ouais, j'hésitais entre les deux.
Voilà. Après, c'est Roland-Garros, 2,4 mm-hmm. à peu près, et l'Open d'Australie, 2 millions. Donc effectivement, au niveau des dotations des grands chelems, c'est égal, mais sur le reste, pas tant que ça. Donc du coup, il y a quand même des écarts encore à combler là-dessus. Ensuite, bah, pour le nombre de licenciés en France, d'après toi, combien il y a d'hommes et de femmes licenciés en France sur le tennis?
Oh, il doit y en avoir un paquet.
Oh, comme ça. Jouez chez vous, n'hésitez pas. C'est des chiffres à la volée.
10 000.
What? Quoi? Pour plus?
J'en sais rien.
T'es ouf.
Honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être, peut-être 100 000.
Eh ben, c'est plus. Il y a 800 000 hommes français qui sont licenciés dans des clubs pour jouer au tennis et 400 000 femmes. Et pourquoi c'est le deuxième? Pour le coup, au cumulé, on a 1 million de personnes qui font du tennis et on en a beaucoup plus qui font du foot. Mm-hmm. Mais par contre, au niveau des filles, il faut savoir qu'il y a 251 000 licenciés de football, mm-hmm. mais qu'il y a 400 000 licenciés de tennis.
Ah oui.
Donc c'est un sport qui est beaucoup plus féminin, littéralement, que le sport le plus populaire du monde. Alors, bien entendu, au niveau des audiences, c'est assez simple. Sur les quatre grands chelems dont on vient de parler, c'est eux qui prennent le plus gros de toutes les audiences. Mm-hmm. Tout le monde veut voir la finale de Roland-Garros, de Wimbledon, de tout ça.
Ouais, l'US Open, tout ça. C'est ce qu'on voit passer dans les grandes chaînes télé.
Et c'est à peu près 2 milliards de spectateurs sur 200 pays pour les quatre tournois, ce qui est assez fou. Et sur les réseaux, c'est 8,3 milliards de vues, 12 milliards de réactions. C'est une hausse impressionnante de saison en saison. C'est de plus en plus sur les réseaux sociaux, les échanges.
C'est de plus en plus populaire,
C'est assez dingo. Et pour vous donner une idée, la population de la Chine ou de l'Inde, c'est 1,5 milliard. Voilà.
Ouais.
La place. Quand même beaucoup de monde qui aime le tennis. Mm-hmm. Du coup, on va faire une petite pause dans quelques secondes. On va écouter un peu de musique et après, on va reprendre, évidemment. Bon, ça te plaît?
Ouais, ça va. Ça va. Comme d'habitude,
petit
ça
quiz
se passe,
sympa. T'as
ouais,
plein de
j'ai
trucs.
Eu des bonnes réponses.
Ah, ouais, non, j'avoue, bravo. Bravo, je
n'ai
pas
eu cette colère. J'ai pas les questions à l'avance exprès.
Ouais, non, mais...
Et je suis contente à chaque fois que j'ai une bonne réponse.
Oh, perfect, perfect. Bon, allez, c'est parti. Jingle musique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bonjour à nouveau, auditrices, auditeurs. Nous sommes toujours sur 93.1. Je suis toujours Kad, l'homme du 92. Et vous êtes dans l'émission Championne, l'émission qui parle de sport féminin. Bon alors, Elodie qui nous accompagne aujourd'hui, ça va toujours ?
Ça va toujours, super.
Bien. Alors, vous venez d'entendre Cyndi Lauper.
Yes.
Voilà, dédicace Cyndi Lauper. Dédicace à Sandrine, qui nous écoute au plus loin d'ici, la première auditrice de cette émission. Et là, maintenant, dans cette seconde partie, on va parler d'Amélie Mauresmo. Alors, Amélie Mauresmo, est-ce que tu connais ?
Qui ne connaît pas Amélie Mauresmo ?
Ah, peut-être que les nouvelles générations ne connaissent pas.
Hein. Oui, la nouvelle génération, peut-être, parce que ça fait un moment qu'elle a arrêté, on va dire, sa carrière pro. Mais il y a une dizaine d'années, tout le monde la connaissait.
Oui.
C'était vraiment la joueuse française qui est arrivée au sommet de sa discipline, comme aucune autre femme française n'est arrivée.
Bah, clairement. D'ailleurs, aucun homme français, d'ailleurs, aussi.
Aucun homme français, d'ailleurs, oui.
Elle les a
tous surpassés. Ouais. Donc, ouais, tout le monde connaît Amélie Mauresmo.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi, parce qu'elle a aussi pareil un parcours comme les dernières légendes qu'on a fait, Megan Rapinoe, etc., qui est qui dépasse largement le palmarès d'un garçon, en fait, au final, et qui n'est pas forcément médiatisé à la même hauteur, même si dans le tennis, on va en parler après, c'est un peu particulier sur ce sujet-là. Donc Amélie Mauresmo est née en 1979, elle a commencé le tennis à 4 ans, inspirée par la victoire de Yannick Noah en 1983.
Ouais.
Eh ouais, j'y étais, voilà, je le dis.
J'étais pas née, voilà, je le dis.
Moi j'y étais. Alors elle va évoluer dans le circuit de 1993 à 2009, donc 16 années, c'est énorme, surtout après ce qu'on a décrit en première partie, c'est-à-dire la manière dont vous avez besoin de constituer votre capital pour pouvoir aller tout partout, pour pouvoir faire vos tournois et tout. Donc c'est force à elle, vraiment. Donc du coup, à 19 ans, elle crée la surprise en atteignant la finale de l'Open d'Australie, après avoir battu Lindsay Davenport. Pour ceux qui connaissent le tennis, c'est une très grande joueuse, et surtout la célèbre et extraordinaire Monica Seles, qui est une des plus grandes joueuses des années 80-90 avec Steffi Graf, justement. C'était sa rivale, en fait. Elle s'incline contre Martina Hingis, aussi une grande joueuse de fin des années 90, suisse, qui était vraiment très très bien. Et son talent éclate au grand jour. Elle atteint donc le top 10, qu'elle retrouvera après de 2001 à 2006, et qu'elle, pendant 5 ans, elle va être vraiment dans le top 10 de tous les temps à cette époque-là. En 2003, elle gagne la Fed Cup et elle devient numéro 1 mondial en 2004. Et là, elle est double championne du Grand Chelem 2006, ce qui est un truc de ouf. Elle va être 39 semaines en tête de la WTA, donc la Women Tennis Association, et en même temps, elle va gagner le tournoi de Berlin, Montréal, etc. C'est complètement fou, d'ailleurs. Alors, déjà, première chose, est-ce que tu sais ce qu'est la Fed Cup ?
Non.
Ben, voilà.
J'allais broder, genre, ouais, non.
Non, très bien. Alors, je vais expliquer ce qu'est la Fed Cup. Alors, la Fed Cup, c'est la coupe Billie Jean. Rien à voir avec Michael Jackson, c'est important.
Tu as vu mon regard.
Je sais d'ailleurs que tous les gens qui écoutent ont dit quoi. Donc c'est la coupe Billie Jean King, en anglais Billie Jean King Cup, voilà. Auparavant appelée la coupe de la fédération, jusqu'en 1994, puis la Fed Cup jusqu'en 2020. C'est un tournoi mondial de tennis féminin disputé par équipe nationale. En gros, c'est là où tu vois la coupe Davis pour les garçons, c'est la même chose. C'est en gros l'équipe de France rencontre l'équipe des États-Unis, l'équipe d'Espagne, et donc tu as les meilleurs joueurs
qui
se rencontrent.
C'est un peu la coupe du monde de tennis.
C'est ça.
Ouais.
C'est la coupe du monde de tennis par équipe. Généralement, ils partent en plus à 5, et t'as du simple et t'as du double. Mm-hmm. Donc vraiment, c'est fou. D'ailleurs, on l'a gagné avec Yannick Noah, la grande image où il saute en l'air,
ouais,
pour les garçons, c'est notamment. Et donc, déjà, elle la gagne en 2003.
Oui.
C'est complètement ouf. Ensuite, en 2004, effectivement, elle va devenir numéro 1 mondiale. Question, qui a déjà été numéro 1 mondial au tennis en France ?
Par elle, il n'y en a pas. Hein.
Enfin, il n'y en a pas.
À part elle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu depuis. Il n'y en a pas eu... Si, il y en a eu une avant elle, mais dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, je ne pourrais plus te sortir le nom.
Non, en numéro 1 française, non. Mais c'est, toi, tu parles de Suzanne Lenglen, qui a gagné le tournoi qu'elle a gagné, c'est à Wimbledon.
Ah, peut-être,
ouais. Et Wimbledon, et d'ailleurs, Suzanne Lenglen, c'est le nom d'un cours de tennis que tu as à Roland-Garros,
oui.
On dit, sous le Suzanne Lenglen. Eh bien, sachez que c'est une des grandes, grandes joueuses femmes du tennis français. Mais effectivement, oui, elle a fait Wimbledon en même temps que Suzanne Lenglen. Mais jusqu'à présent, il n'y a personne. Voilà. Donc, c'est la seule, numéro 1 française de tous les temps en tennis. On espère qu'il y en aura d'autres. Donc, déjà, ça, c'est fou. Et effectivement, 2006, c'est le grand exploit. Victoire à Wimbledon. Je le dis bien avec l'accent. Elle bat Justine Hénin, la Belge, qui est l'une de ses rivales. Aucune Française n'avait gagné à Wimbledon depuis 1925. Et Suzanne Lenglen.
Ouais.
Et ça, c'est beau, j'aime beaucoup. Elle gagne la même année, en 2006, l'Open d'Australie, dont on a parlé tout à l'heure, face à Justine Hénin, la Belge.
Tout à fait.
Voilà. Eh oui, les Belges, on vous aime bien, même en demi-finale de Coupe du Monde. On vous adore. On vous aime beaucoup, les Belges. Les grandes rivales d'Amélie Mauresmo seront Justine Hénin, évidemment, Serena Williams, parce qu'elle a joué contre Serena Williams.
Ouais, plusieurs fois.
Exactement. D'ailleurs, son bilan, tu veux savoir le bilan de victoire-défaite ? Vas-y, je te laisse deviner, je vous laisse jouer. Quel est le bilan de victoire-défaite d'Amélie Mauresmo versus Serena Williams ?
Oh, ça doit être un peu du 50-50, à peu près, non ?
Je te laisse te donner un chiffre.
Je pense, je dirais 50-50.
50-50 ?
Ouais.
C'est votre dernier mot ?
C'est mon dernier mot.
Il faut se l'appeler à un ami.
J'encade.
Ok. Eh bien, deux victoires pour Amélie Mauresmo et 10 défaites.
Ah oui.
Ah, Serena Williams, je lui ai rien laissé.
Serena Williams, en même temps, c'est un monstre de la discipline.
C'est ça. Et dans la même époque, on a Maria Sharapova. Mm-hmm. Effectivement, grande russe, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
Ouais, bien, merci, j'avais un doute. Duel générationnel, parce qu'ils sont la même génération et tout. Donc vraiment, carrière de malade. Elle arrête sa carrière en 2009. D'ailleurs, elle fait un truc très drôle. Elle convie les journalistes dans un café.
Dans un café, ouais, vas-y, j'ai vu cette anecdote.
Vas-y, raconte.
Donc, elle fait un peu une conférence de presse, on va dire, dans un café. Elle invite plusieurs journalistes. Et là, elle dit de but en blanc, bon, on ne va pas tourner autour du pot, je vous ai amené ici pour vous dire que j'arrête.
Et ça, je trouve ça génial.
Et je trouve que ça la représente bien.
Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. Ensuite, elle va être coach de Marion Bartoli, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Marion Bartoli est une des rares femmes à avoir gagné Wimbledon.
Mmh, tout à fait.
Et justement, son coach, c'était Amélie Mauresmo.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment la boucle est bouclée. Mmh. C'est top, je trouve
ça
génial.
Elle a été sa coach pendant quelques années.
C'est ça. Elle sera aussi la seule femme coach d'Andy Murray. Alors, Andy Murray, pour ceux qui ne savent pas, à l'époque où vous avez Rafael Nadal contre Roger Federer, parce que ça, au moins, vous ne pouvez pas les rater, ces deux tennismen, il y en avait un troisième qui essayait de prendre sa place avec Djokovic, et c'est Andy Murray. On a retenu 3 sur 4, mais il était là, l'Américain Andy Murray. Et depuis peu, elle a remplacé Guy Forget à la tête de la direction de Roland-Garros.
De Roland-Garros, exactement.
C'est exceptionnel. Je trouve sa carrière folle. Mais déjà, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, Amélie Mauresmo ? Et vous aussi, remémorez-vous, Amélie Mauresmo, ça vous inspire quoi, en fait ? Tout de suite, comme émotion, comme...
Quand on me parle d'Amélie Mauresmo, moi, je vois quelqu'un de fort, vraiment de fort. Elle était très grande, elle faisait plus d'1m75, je crois.
Ouais.
Elle faisait 1m75. Une carrure de tennis woman. Donc, ouais, moi, je vois vraiment quelqu'un d'hyper impressionnant. Même à la télé, elle imposait sur le court, on la voyait. Donc moi, ouais, c'est quelqu'un de... Ouais, qu'on voit passer, qu'on remarque. C'est ça que je vois.
Moi, elle m'a laissé un bon souvenir par sa générosité, sa simplicité. Mm-hmm. Clairement, elle a toujours été cash et directe. Elle n'a jamais fait trop de cancan. Et en fait, elle fait partie de cette génération de tenniswomen qui vont arriver notamment après avec Serena Williams et, athlétique.
Ouais.
Martina Hingis, dont on a parlé tout à l'heure, Suisse, Monica Seles, Steffi Graf, on est un peu sur la finesse, le côté technique. Et là,
des petits gabarits, comme on dit, très fines, très...
Qui vont commencer par de la technique, là où Amélie Mauresmo avait envoyé des parpaings.
Ses bras, c'était bécuisse. Ah non, c'était impressionnant.
Moi, vraiment, j'adore. Et le truc qui est cool, c'est qu'elle va changer l'approche du tennis aussi. Parce que du coup, à son contact et des sœurs Williams, le tennis féminin va passer plus sur de l'athlétisme et moins sur le côté pour faire du technique avec des slices, des machins et tout. Là, on va partir sur maintenant, il faut aller en fond de court, il faut frapper fort, quoi.
On va chercher la performance.
Ouais, exactement.
On va à l'attaque.
Ouais.
Là où beaucoup de sportives étaient presque dans la retenue. Ça se balançait la balle, ça cherchait l'occasion. Là, avec cette génération, donc comme les sœurs Williams, Amélie Mauresmo et d'autres, Sharapova par exemple, on va vraiment aller chercher au contact. Elles ont presque inventé un nouveau tennis. On pourrait presque aller jusque-là.
Ouais, clairement.
En disant que elles vont vraiment chercher la performance là où il y en avait très peu. C'était moins spectaculaire. Là, on va vraiment chercher du spectacle, de la force, des services impressionnants, des revers. D'ailleurs, Amélie Mauresmo était très connue pour son revers. Donc,
Les gros revers à deux mains avec les grosses frappes en fond de court. Non, clairement.
Son revers slicé.
Ah, pardon.
j'ai, euh, Moi aussi, j'ai
bossé. Voudriez-vous une part de pizza, vous aussi? Tu t'as dit slicer, j'ai une part de pizza, une petite margarita.
Comme ça. Écoute, si tu veux la définition, j'ai la définition Wikipédia.
je te crois. Tu as fait tes recherches, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, à partir de 2007, les cash prize garçons-filles deviennent égaux. Mm-hmm. 18 ans en arrière, au moment où on se parle, c'est-à-dire que les filles, on en a parlé la dernière fois, mais les filles ont des égalités salariales que depuis 2-3 ans.
Là où beaucoup de sports, ouais.
Effectivement, et beaucoup de sports sont même encore en retard. Mm-hmm. Alors que là, clairement, sur en tout cas les tournois du Grand Chelem, il y a déjà quelque chose qui est fait en amont. Bah, c'est aussi parce que les gens ont envie de regarder le tennis féminin. Ouais. Et ce qui est très différent des époques précédentes, où là, comme tu as dit, tu as tout un cheptel de filles, ça se cartonne, et ça devient, entre guillemets, pour le grand public, très intéressant à regarder. Là où en fait c'était une espèce de tournoi et de second, tu vois, là ça devient un truc qu'on attend.
Ouais. On a envie de voir. Les sportifs deviennent des stars aussi.
Ouais, aussi, oui, c'est vrai, c'est la
même époque. Elles sont hissées au rang de stars de leur discipline. Là où dans beaucoup de sports, c'est pas le cas.
Ouais, oui.
C'est aussi ce qui fait.
La médiatisation.
Ouais, voilà, exactement. C'est aussi ce qui fait parfois la différence entre les salaires qu'on retrouve pas dans le tennis.
Ouais. Bon, en tout cas, sur le Grand Chelem, parce qu'après...
Sur le Grand Chelem, oui.
Les petits tournois, comme on l'a dit. Il y a une jeune Française qui est d'ailleurs à parler d'elle dans les réseaux sociaux. Son nom est perdu dans mes notes, donc je ne vais pas aller chercher parce que je ne me souviens plus. Oui, je suis honnête, je ne me souviens plus. Mais elle a buzzé sur les réseaux sociaux parce qu'elle a mis son gain quand elle a fait son tournoi à Prague. Et en fait, l'aller-retour, l'hôtel, comme on a dit, l'avion, la personne
parler.
Qui l'accompagne, elle a gagné 2,25 €.
Wow.
Alors qu'elle a gagné le tournoi. Et ça, c'est en vrai, c'est scandaleux. Moi,
c'est
je trouve
scandaleux,
ça scandaleux
ouais.
De ouf. Elle gagne le tournoi, elle gagne 2,25 €. Ça n'a pas de sens, tu vois.
Ouais.
Et tout ça, parce
que... Oui, j'en avais entendu parler de cette histoire. Pareil, j'ai pas le nom de la jeune fille.
C'est une jeune Française. Ouais, je retrouve
mais
son nom.
Mais je me souviens de l'article, je l'ai vu passer.
Ouais, ça a fait un sacré buzz. Mais en même temps, c'est quand même abusé. Mais par contre, il n'y a rien à dire sur le fait que moi, vraiment, Amélie Mauresmo, c'est... Moi, je suis un peu plus vieux, donc je regardais déjà le tennis avec les Monica Seles et les Steffi Graf. J'aimais bien regarder pour
oui,
le
là
coup.
Là où moi, je l'ai découvert avec Mauresmo.
Voilà. Et quand il y a eu Mauresmo, on va pas se mentir, je me suis dit, waouh, on a une... En plus, elle a l'époque de Marie Pierce aussi un petit peu. Mais Amélie Mauresmo, pour moi, c'était... Là, c'est notre chouchou, c'est Cocorico, tu vois.
Ouais, bien
c'est
sûr.
Notre Française à nous.
Bien sûr.
Elle représente. Je suis le seul regret que j'ai, et je pense qu'elle aussi, mais plus que moi. Je suis sûr qu'elle regrette plus que moi d'ailleurs. D'ailleurs, elle nous écoute. Des bisous, Amélie.
Bien
des
sûr.
Bah, j'aurais kiffé qu'elle prenne Roland Garros. Ah, ça aurait été exceptionnel.
Ça aurait été incroyable. Ah,
ça
bah,
aurait été
sûr.
Exceptionnel. Mais oui,
on
elle
l'a espéré pendant des années.
Ouais, mais bon, après, elle a quand même un Wimbledon et. Quand même première mondiale ad vitam aeternam, dans mon cœur. Mais oui, c'est vrai que c'est assez ouf. Eh bien, j'ai une question sur le tennis. Attention, quelle joueuse détient le record de titre du Grand Chelem en simple? Alors, je te donne trois réponses quand même, parce que comme ça va être un peu compliqué. Steffi Graf, Serena Williams ou Margaret Court?
Moi, j'aurais dit, spontanément, si tu m'aurais pas donné les trois options, j'aurais dit Williams.
Et non.
Dommage, je sais pas.
Margaret Courts,
okay.
Qui a joué dans les années 30-50 par là-bas. Et, 50, si j'ai dit. Elle joue entre 50 et 70. Elle a gagné 73 titres.
Waouh.
Ouais, c'est...
Ouais, c'est pas mal, hein.
Ouais, c'est... Petite carrière. Petite
ça, carrière. Ça va.
Du coup, on va revenir dans une troisième partie. Avant ça, on va réécouter un peu de musique dans quelques secondes. Bon, ça se passe bien.
Ça va, super.
Tranquille. Bon, toi aussi, hein, tu veux un poster d'Amélie Mauresmo, une raquette dédicacée.
Ah ouais, grave.
Ah, de fou.
Ah, j'adorerais.
J'adorerais aller là-bas. Ouais. Je pourrais amener dédicacée.
Amélie,
s'il vous plaît. S'il vous plaît, Amélie. Alors qu'en fait, techniquement, je suis plus vieux qu'elle, quoi. Bref. Eh bien, merci la régie d'envoyer le petit morceau musical. Pause musicale, on se retrouve juste après.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Lucy Liu. My girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Bring it. Question, don't.
tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships.
The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy.
Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
Shoes on my feet.
Et bonjour à nouveau auditrices, auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1, je suis toujours Kad, l'homme du 92, vous êtes bien dans l'émission championne, l'émission qui parle de sport féminin. Et aujourd'hui nous parlons raquettes, donc tennis, donc balle jaune, et pour m'accompagner, j'ai toujours la motarde la plus rapide de l'Ouest. Comment ça va Elodie ?
Ça va, ça va.
La guerrière de la route.
Je passe une excellente soirée.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, ça me fait plaisir, ça c'est cool. Et bien sûr la régie en place, dédicace à eux, des bisous. Alors, maintenant on va parler de façon un peu plus libre, un peu plus sur le côté, voilà, nous ne sommes pas, genre, spoiler alert, disclaimer, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas sociologues, c'est important. C'est un peu des avis, mais c'est toujours très bien d'en partager. Et effectivement, quelque chose d'intéressant, c'est que dans le tennis, et je vais te laisser après développer là-dessus, parce que c'est toi qui me l'as dit et je trouvais ça hyper intéressant, c'est vrai que dans le tennis, voilà, si on prend le foot par exemple et que je dis, voilà, citez-moi, trois joueuses de foot à n'importe qui, même vos auditeurs, vous allez vous creuser le crâne. Et si vous ne regardez pas le foot, vous allez avoir du mal. Mmh. Par contre, si on dit, donnez-moi trois tenniswoman.
Tout le monde peut les citer. Enfin, voilà. Tout le monde. Je me comprends, mais ouais. Tout le monde peut en citer. Ne serait-ce que les sœurs Williams, voilà. Pour ne citer qu'elles. Amélie Mauresmo aussi. Beaucoup de Français peuvent... Enfin, beaucoup de Français de plus de 30 ans la citeront. Mmh. Et après, enfin...
Bah, comme tous les noms qu'on a dit tout à l'heure, Monica Seles, Steffi Graf pour les années 80,
exactement, Sharapova voilà, même Martin si on ne connaît pas les palmarès, on connaît les noms.
Ouais, c'est ça. Et en fait, j'étais très, très étonné de ce truc-là qui était, bah, comment ça se fait que dans certains sports, on a du mal à avoir de la visibilité et à connaître des stars, effectivement, des grandes sportives. Et dans le tennis, pac. Voilà, je peux t'en citer deux, trois, j'ai vu, j'ai regardé. Et en fait, est-ce qu'effectivement, ce n'est pas dû à la médiatisation au final ?
Certainement, parce que tout vient avec les médias au final, que ce soit les médias papier. Il y a pendant les années, on va dire 90-2000, c'était le papier principalement et un peu la télé aussi. Après, bon, maintenant avec l'essor des réseaux sociaux, c'est encore différent, mais oui, ça a certainement joué dans le collectif. À partir du moment où on en parle, forcément les noms restent, on s'y intéresse. Qui est cette jeune Française de 16 ans qui est en train de tout révolutionner, qui bat les plus grands qui sont en place depuis des années.
Et qui devient numéro un mondial.
Enfin, en l'espace de quelques années, elle est passée d'inconnue à numéro un mondial, ce qui est quand même exceptionnel.
Ouais.
Donc, les médias ont forcément joué là-dessus.
Ouais, et du coup, déjà en France, on a quand même un cheptel de tenniswoman, voilà.
Mm-hmm.
Mais après, au plus général, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, quand il y a la finale de Wimbledon ou Roland-Garros, c'est un événement de regarder le tournoi féminin, en fait. Mm-hmm. Parce qu'il va y avoir Serena Williams, parce qu'avant, il y avait Amélie Mauresmo, Marie Pierce, c'était un peu cocorico. Et puis, si tu as une joueuse qui représente ton pays, tu vas forcément regarder. Et effectivement, la médiatisation, elle a littéralement tout changé. Et d'ailleurs, je prends cet exemple-là et on va en discuter, mais est-ce que finalement, est-ce que le talent suffit-il lui-même ? Est-ce que le palmarès suffit à avoir cette reconnaissance équivalente ? Ou en fait, c'est parce qu'on a dépassé la condition de joueuse ? Parce que si on prend Serena Williams, qui est la plus connue, Serena Williams, c'est 7 Open d'Australie, c'est beaucoup quand même, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon, 6 US Open. Donc un palmarès extraordinaire,
complètement dingue,
meilleur que beaucoup, beaucoup de joueurs masculins légendaires. Mais finalement, elle a dépassé sa condition de tenniswoman. En fait, pour moi, Serena Williams, c'est devenu un truc de la pop culture. Et en fait, c'est ça question. Est-ce qu'en fait, si elle avait eu cette carrière, est-ce qu'elle serait cette icône ? Ou est-ce qu'elle est devenue cette icône et qu'elle n'aurait pas eu besoin de cette carrière ? Tu vois ce que je veux dire ?
Je pense que les deux sont vraiment étroitement liés. Elle n'aurait pas eu autant de lumière sur elle si elle n'avait pas eu sa carrière, son palmarès. Mais si on parle encore d'elle aujourd'hui, parce qu'elle ne joue plus au tennis, elle a pris sa retraite il y a quelques années maintenant. Si on parle encore d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a su dépasser ça. Et elle a su garder cette lumière sur elle. Elle a des contrats avec des grandes marques comme Nike.
Oui.
Elle a fait des apparitions dans des films. Enfin, vraiment, elle est... Ouais, comme tu disais, elle est vraiment rentrée dans la pop culture. Tout le monde la connaît, même les jeunes. Tu leur dis Serena Williams. Ça se trouve, ils ne vont même pas pouvoir te dire elle a fait du tennis, mais ils connaissent son nom.
Oui.
Faut quand même se dire qu'il y a des séries sur elle. C'est quand même quelque chose sur un sportif.
Moi, ce que je trouve qui est fou... pour un sportif en général, et c'est encore plus cool que ce soit une fille justement, c'est que des fois je me demande même s'ils savent qu'elle a une sœur. On a vu jouer les deux sœurs.
Bien sûr.
Mais est-ce que finalement...
Les sœurs Williams, oui.
Pour nous, oui, mais il y en a, je suis sûr, ils connaissent que Serena, tu vois.
Oui, c'est certain même.
Après, ce qui a contribué, effectivement, comme tu l'as dit, le contrat avec Nike, qui est complètement ouf, c'est l'athlète féminine la mieux payée de l'histoire. Donc on a vraiment un cas d'école fou. Mais après, ce qui est fou, c'est que tu vas voir les chiffres, tu vas comprendre. Tous les contrats estimés, Nike, etc., Gatorade, Uber, elle a gagné environ 340 millions de dollars. Ce qui en fait l'athlète féminine la mieux payée de tous les temps. Mais c'est là où, en fait, qu'il y a encore d'où l'idée de faire cette émission pour que les gens se sensibilisent à ça. Roger Federer, je l'aime beaucoup, mais lui, il a gagné près d'un milliard de dollars. Donc en fait... Autant c'est une icône de la pop culture qui est fou, tu vois, tout le monde la connaît, autant je trouve que sur certains sujets, il n'y a pas encore l'égalité, si tu veux, tu vois.
Oui, oui, bien sûr, il y a toujours cette différence, mais ce que je trouve, pour le coup, formidable, c'est qu'elle s'est distinguée là où 99,9% des sportifs n'ont jamais brillé, c'est-à-dire en dehors de leur sport.
Voilà, c'est ça.
C'est qu'il y en a beaucoup... une fois qu'ils prennent leur retraite, on parle d'encore une année parce que c'est encore frais, et puis après on les oublie.
Ouais, parce qu'ils font autre chose et
ils font autre chose, ou voilà, ils prennent leur retraite, quoi. Donc même s'ils deviennent coach ou chroniqueur, comme Mauresmo l'a été d'ailleurs, on en entend entre guillemets, plus parler, ou alors on se rappelle d'eux comme chroniqueur ou comme voilà, journaliste, et plus comme sportif.
Enfin, ouais. Tu vois, là où elle a vraiment un
là
truc...
Là où elle a vraiment ce... Voilà, c'est Serena Williams, la star, athlète, ancienne athlète, ancienne numéro 1, ancienne voilà, championne du Grand Chelem, etc., etc. Je pense qu'elle elle a réussi à garder vraiment ce package complet sur elle, où vraiment on se souvient de tout.
Ouais, il y a un côté storytelling très américain.
Oui.
Tu vois, tu reviens sur l'image, le marketing, tout ça. Mais pour deux, trois trucs, pour que vous compreniez aussi à quel point c'est une icône de la pop culture, bah déjà, il y a la méthode Williams, qui est un film avec Will Smith. Il faut savoir que Will Smith a gagné un Oscar pour ce film, là où, quand il a fait le film Ali ou À la recherche du bonheur, il ne l'a pas eu.
Ouais.
Donc le retentissement autour de ça, c'est fou. C'est vraiment, et c'est vraiment sur le père des sœurs Williams. On ne le dit pas assez souvent, mais ça reste... des athlètes américaines noires aux États-Unis.
En plus, ouais.
Et dans le tennis, bah, il y a très peu de gens qui sont racisés. Si, elles, on les reconnaît tout de suite parce que c'est le top, mais c'est quand même fort d'avoir été numéro un mondial avec, avec ce... voilà, pour, parce que du coup, ça c'est un truc qui vient de me popper à la tête parce que j'y ai jamais pensé, parce que moi, je ne fais pas attention, naïvement. Mais c'est quand même... des sportives noires dans un sport où il y a très peu de diversité parce qu'il faut beaucoup d'argent, donc forcément on ne met pas en avant les gens qui ont peu de moyens, qui sont généralement effectivement des gens qui sont d'autres pays en fait. Et là c'est un truc de fou.
Ouais, ouais, quand tu prends un peu de recul, c'est
et
c'est
je dingue. Pense que ça contribue à ce qu'elle soit une connue.
Ça contribue dans sa légende presque.
Ouais, ouais, oui, carrément. Clairement. Après, évidemment. Elle a participé bah, là en 2025 avec Kendrick Lamar qui nous écoute.
Tout à fait.
Embrasse.
Kendrick.
Kendrick Lamar. Elle apparaît quelques instants à faire ce petit pas de Los Angeles que Snoop Dogg aime beaucoup. En 2023, elle apparaîtra, personne n'a fait ça, dans deux pubs différentes pendant l'intermède du Super Bowl.
Mm-hmm.
Personne n'a jamais fait ça. Donc, elle reste assez fou. Moi, je trouve ça assez dingue. Et en fait, le truc, c'est. Moi, je me pose la question, est-ce que finalement, c'est les médias et les sponsors qu'elle a réussi à accrocher à un moment donné qui font sa réussite, ou elle l'aurait eu quand même... Enfin, tu vois, est-ce que c'est elle qui a emmené tout ce monde, toute cette ferveur vers elle, et les deux sœurs d'ailleurs, au passage, hein, parce que l'autre aussi, elle a ouvert la porte, Vénus.
Bien sûr.
Est-ce que c'est les deux sœurs qui ont emmené les gens, ou est-ce que c'est, on va faire briller parce que c'est l'athlète du moment. Parce qu'en fait, finalement, une Amélie Mauresmo n'a pas eu cette aura, une Steffi Graf n'a pas eu cette aura, une Monica Seles a eu des auras, mais jamais autant que Serena Williams.
Non, mais après, il ne faut pas oublier que c'est des Américains et qu'ils adorent le show. Donc oui, il n'y aura jamais... Enfin, Amélie Mauresmo, ça a été vraiment une star à son prime en France. Tout le monde la connaissait, tout le monde parlait d'elle. Elle était invitée sur les plateaux, etc., etc. Mais on est la France.
Oui.
Tu vois, on aime, enfin, on n'est pas chaud, spectaculaire. Enfin, il y a qu'à voir la mi-temps du Super Bowl, quoi. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Ah,
Serena Williams a dansé d'ailleurs cette année.
Avec Kendrick Lamar.
Yeah, of course. Donc, ouais, enfin, faut pas oublier que c'est des Américains.
Oui.
Donc, je pense qu'elle a, ça a enfin, après, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son entourage, mais je pense que ça a commencé comme. Waouh, vous avez vu cette petite jeune fille noire américaine qui est en train de voilà de tout casser dans le tennis. Donc ça a commencé parce que elle était ce qu'elle était.
Ils sont imposés en fait.
Voilà. Et sauf qu'après c'est elle, sa sœur et sa famille, son père et etc. Qui ont travaillé pour garder cette aura en fait.
Ouais. Ouais, parce que je pense que la volonté de réussir elle devait être phénoménale. Bon, il y a qu'à voir le film de toute façon, et ça retranscrit bien même si c'est un peu romancé. Et je pense que c'est, oui, pour moi, c'est le talent qui a forcé le reste, quoi.
C'est sûr.
Mais c'est vrai que ça reste une icône de la pop culture, rien à dire. Et comme tu as dit, je pense que tout le monde connaît Serena Williams quasiment, tu vois. C'est intergénérationnel. Et elle fera, bah, d'ailleurs, aux Jeux Olympiques de 2024, elle est quand même sur un bateau avec Carl Lewis, Nadia Comaneci, Rafael Nadal.
C'est vrai.
Elle porte la flamme.
Sur la scène, ouais.
Et ça, c'est fou parce que c'est une tenniswoman et tu as des athlètes qui sont là. Bon, après, Rafael Nadal. Ça compte pourquoi elle est là ou pas, pourquoi pas, finalement il y a du tennis, mais le fait qu'il y ait Serena Williams, je trouve ça fort. Tu me dis, purée, ils ont mis Serena Williams.
Ouais, alors moi j'étais étonnée quand j'ai vu la scène, ouais. c'était magique, c'était incroyable, mais je me suis dit, waouh, ils l'ont mis là.
Ouais.
Ouais. C'était dingue.
D'ailleurs, des bisous à Thomas Joly qui nous écoute au passage. Il nous écoute, bah, il a dit à la fois, il a dit, moi j'aime bien cette émission. Voilà. Alors, on va bientôt arriver à la fin. Il nous reste encore 3 bonnes minutes. Je voulais parler d'un truc rapidement. Un sujet qui m'a été envoyé par Sandrine C, bien sûr. Alors, je me suis fait avoir, parce que j'ai cru que c'était Adidas, mais rien à voir. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, la marque Persil, tu sais, de lessive, s'est associée avec Arsenal. Et ils ont fait une campagne complètement ouf pour déstigmatiser les règles dans le sport. Je pense qu'on en reparlera dans un sujet encore un peu plus gros la prochaine fois. C'est hyper intéressant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les photos, elles sont folles. Et en fait, c'était comme dans le sport, le dépassement, le sang sur un maillot, le sang sur un truc, c'est un peu, tu sais, comment dirais-je, le synonyme d'effort, de dépassement de soi. Et l'idée, c'est pourquoi le sang des règles, du coup, devrait être tabou. Et en fait, ils ont fait tout plein de visuels là-dessus. C'est extrêmement intéressant, vraiment, pour le coup. Et il faut savoir aussi pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'une fille sur quatre, c'est beaucoup, arrête le sport à cause de ces règles. Parce que manque d'informations, elles ont honte, elles sont dans un inconfort. Donc du coup, c'est un sujet vraiment part entière. Donc je pense que dans la prochaine émission, on en parlera plus avant, parce que c'est hyper intéressant.
Et d'ailleurs, c'est un vaste sujet.
Ouais, c'est un très très vaste sujet, vraiment, que j'aimerais bien qu'on en parle. Et donc pour que ce soit traité, on en parlera la prochaine fois un peu plus en profondeur. Il faut savoir qu'Adidas a réagi à ça en 2021, depuis 2021, pardon. Ils font les collants TechFit. Sérieux, c'est des leggings en fait qui sont conçus pour protéger contre les fuites et permettre aux sportifs de rester en confiance quand elles font du sport. Je trouve ça génial. Est-ce que vous avez un avis?
C'est génial. Moi, c'est la seule chose qui me peine, c'est qu'on ait attendu si longtemps, parce que les femmes n'ont pas leurs règles depuis 5 ans. mais c'est bien, ça avance, et ça c'est vraiment cool. Il était temps. Ça avance, parce que vraiment, c'est comme tu disais, c'est un vaste sujet, on pourrait repartir pendant une heure là-dessus.
Ouais, clairement.
Mais oui, c'est vraiment cool, mais ça a pris du temps.
D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous écouter la semaine prochaine, parce qu'on va parler de ça. Du coup, on arrive quasiment à la fin de cette émission, il nous reste 2 minutes à peu près. Donc là, écoute, merci d'être venu.
Merci à toi de m'inviter.
Je t'en prie. Donc l'invitation tient toujours pour la semaine prochaine pour parler
avec
de ce sujet, entre autres.
Avec grand plaisir.
Voilà, sans problème. Alors, je remercie évidemment la régie, comme d'habitude. Je remercie aussi Aligre FM, 93.1. Vous êtes dessus, mais il faut les remercier. C'est grâce à eux qu'on puisse faire cette émission, et c'est vraiment très, très gentil. Et quelques petits comptes à suivre. Effectivement, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je le redis. Si vous aimez le sport, et en particulier le football, vous pouvez suivre Dounia Mesli, je l'ai mal appelé la semaine dernière, sur Twitter, qui suit effectivement le championnat de Ligue 1. Vous avez sur Instagram 2 comptes très sympas, Emma Oudiou, ambassadrice de la Fondation Enfance. C'est vraiment une sportive qui s'engage et qui fait énormément de choses. Elle fait des stories, elle interview. Et j'ai trouvé un autre compte vraiment très drôle. C'est un collectif très engagé qui s'appelle Les Dégommeuses.
J'adore le nom.
Vous pouvez taper Les Dégommeuses sur Insta. Pas de soucis, c'est un collectif vraiment très engagé contre les discriminations dans le sport féminin. Donc n'hésitez pas à suivre leur compte. Une recommandation de ta part peut-être?
Non, comme j'ai déjà dit, n'ayez pas peur de faire du sport. Rien ne vous en empêche à part vous-même. Et kiffez.
Voilà. Eh bien, nous arrivons donc à la fin. On va envoyer le générique de fin, puisque nous sommes à la fin de cette émission. C'était très sympa. Moi, j'ai bien aimé.
Oui.
Ouais. Vous inquiétez pas, on fera un gros sujet sur les règles féminines dans le sport. Donc, j'ai envie de dire, on envoie le générique de fin. Mesdames et messieurs, c'était Championne sur Aligre 93.1. C'était Cad, Elodie, la régie. Des bisous à tous, faites du sport, prenez soin de vous. Et vive la France!
Et bonne soirée! And I need mine to get me started. Soon to get me started. Got to get me started. Give me baseline.
Saturday. Now I've got mine. That's got me started. Got me started. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing.
Écoutez Aligre FM 93.1.